Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il se méfier des grands mécènes ? Le projet de loi pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris sera examiné ce vendredi à l'Assemblée nationale. Le texte a déjà été adopté en commission. Il prévoit un dispositif fiscal spécifique, une réduction d'impôt de 75% pour les dons de particuliers inférieurs à 1 000 euros. Alors un tel dispositif est-il nécessaire au regard des promesses de dons déjà enregistrées ? Plus de 800 millions d'euros, l'essentiel, environ 700 millions, étant le fait de quelques grands donateurs comme les familles Arnault, Pinault et Bettencourt, encouragés par un système fiscal qui favorise le mécénat. Leur élan de générosité n'est pas passé inaperçu, sans doute n'était-ce pas d'ailleurs le but recherché. Au-delà de la dimension fiscale qui fait qu'une partie des dons effectués reviennent à la charge du contribuable, il y a la question plus politique qui se pose. Dans un pays habitué à voir l'État prendre en charge la solidarité, est-il sain de laisser des opérateurs privés investir ce marché ? C'est le cas aux États-Unis où la philanthropie est considérablement développée. La France n'a pas cette culture, alors faut-il se méfier des grands mécènes ? Pour en discuter, trois invités. François Debiez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président d'Admical, l'association pour le développement du mécénat industriel et commercial, qui œuvre donc à la promotion du mécénat d'entreprise. Vous avez un passé d'ancien banquier. Pour discuter avec vous, Anne Monnier est également
bonsoir.
Avec nous. Docteur en sciences sociales, vous êtes spécialiste de la philanthropie transnationale et vous êtes responsable d'un programme sur ce sujet à l'université Paris 8. Et puis troisième invité, Julia Cagé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris. Vous avez publié l'an dernier chez Fayard le prix de la démocratie. Je rappelle que vous avez été la conseillère économique du candidat à la présidentielle Benoît Hamon, même si aujourd'hui vous n'avez plus d'engagement partisan. Alors je suis allé voir sur le site d'Admical, pour préparer un petit peu l'émission, pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. J'ai vu qu'en une, la première chose que l'on voit, c'est un appel à la mobilisation. Mobilisons-nous pour rebâtir Notre-Dame de Paris. François Debiez, est-ce qu'il y a encore besoin de se mobiliser, étant donné l'étendue des promesses de dons ?
Alors, ça dépend ce que vous entendez par besoin. Si on s'en tient à une stricte approche financière, probablement pas, bien que je pense que personne n'ait aujourd'hui une vision très précise de ce que sera le besoin financier de la reconstruction, d'ailleurs ni de ce que sera cette reconstruction en termes architecturales. En revanche, ce qui me paraît extrêmement important, c'est l'élan de solidarité qui a été créé par cet événement exceptionnel, probablement unique en France et unique au monde et qui ne se reproduira jamais.
Mais si la mobilisation n'est pas pour des considérations financières, c'est pourquoi ? Vous avez besoin de charpentiers, c'est ça que vous cherchez ?
Non, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est que un maximum de gens aient pris conscience que sur une problématique, sur un sujet d'intérêt général, eh bien, il fallait que chacun se mobilise et mette sa pierre à l'édifice. Je pense que notre société aujourd'hui est une société fracturée, cloisonnée entre des communautés qui s'ignorent quand elles ne se détestent pas. Et pour la première fois, il y a depuis des années, il y a un véritable mouvement de solidarité un peu transversal qui s'est mis en route. Et je pense que c'est extrêmement important de le favoriser parce que notre société a simplement besoin de ça.
Alors chacun apporte sa pierre à l'édifice en fonction évidemment de ses moyens. Sur les 800 millions de promesses de dons, hein, qui pour l'instant sont encore des promesses, on verra bien ce qu'il en reste une fois que ces dons effectivement été effectués. Donc sur ces 800 millions, il y a 700 millions environ, j'ai fait un petit calcul, qui sont réalisés par les grands mécènes, la famille Arnault et Bettencourt, 200 millions chacun, la famille Pinault et le groupe Total, 100 millions, je ne vais pas tous les citer. Anne Monnier, est-ce que c'est quelque chose de relativement inédit en France ?
Oui, c'est assez inédit, on va dire cet engagement des grands donateurs. On sait qu'en France, la philanthropie, c'est surtout une philanthropie des entreprises et puis des petits donateurs. Et là, les grands donateurs, c'est plutôt le cas aux États-Unis généralement. C'est très développé la philanthropie des élites et des grands donateurs aux États-Unis. En France, ça commence à se développer, mais c'est vrai que c'est assez peu courant.
On a choisi dans notre titre de parler de mécène. Vous parlez de philanthrope, c'est la même chose. Ça dépend en fonction du pays dans lequel on se trouve. On parle plutôt de philanthropie aux États-Unis, plutôt de mécénat
en
France.
Oui, voilà. Moi, j'évolue dans un contexte assez américain, donc j'avoue que j'utilise le terme de philanthrope par facilité, mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de mécène. La distinction est assez subtile et souvent les gens les utilisent comme synonymes.
Alors, si on utilise en tout cas ces deux termes. Oui, François Debiez.
On parle la sémantique, c'est aujourd'hui à l'instant T en France, c'est mécénat pour l'entreprise et philanthropie pour les particuliers.
Voilà.
Alors, ce sont deux mauvais mots, mais c'est comme ça qu'on les utilise.
Voilà, en tout cas, si on utilise ces deux termes, ça voudra dire à peu près la même chose. Julia Cagé, quelle a été, vous, votre réaction lorsque vous avez vu que, très rapidement, il y a eu cet élan de générosité, en particulier de la part des grandes fortunes françaises?
Non, mais alors, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu un élan de générosité, en particulier de la part des grandes entreprises françaises. Il y a eu un élan de générosité de tout le monde. Et
mais
on
celui-là
a parlé
était particulièrement
dans
visible,
les
quand
médias,
même.
On a parlé dans les médias que de celui-là, parce qu'en fait, on a regardé les chiffres. Sauf que le bon point de comparaison, c'est pas de dire « Ah, Bernard Arnault va donner 100 millions d'euros ». Si on voulait réfléchir droit, il faudrait dire quel est le pourcentage du total de son revenu qu'il va donner pour reconstruire Notre-Dame. Et en fait, le don de 100 millions d'euros que lui va faire n'est pas plus important et sans doute un effort financier beaucoup moins important qu'un petit particulier qui est au salaire médian en France, voire qui gagne un peu moins, et qui lui va donner 200, 300, 400 euros. Sauf que comme lui, il va pas donner 100 millions, il va pas avoir accès aux médias, et il va pas faire une dépêche auprès de l'AFP pour l'annoncer, on va pas en parler. Et du coup, en fait, la question qui se pose derrière cette visibilité qui m'a paru trop importante de ces mécènes, c'est vraiment la question, pour le coup, en anglais, on dirait du naming. C'est-à-dire, voilà, vous allez mettre votre nom sur un bâtiment, vous allez mettre votre nom sur une reconstruction, et donc en fait, vous avez de la publicité gratuite, vous vous rachetez une image, et en plus, au passage, il faut quand même dire que ces dons qui sont annoncés à 100 millions, 200 millions, ça a été quasiment une course qui allait faire le chèque le plus gros, sont quand même pris en charge aux deux tiers par la collectivité, là où le Français qui fait partie des 50% des Français les plus modestes, non seulement il va faire un effort qui financièrement est plus conséquent, mais en plus il va le payer en entier parce que lui ne bénéficie pas des réductions fiscales.
Alors on reviendra un petit peu plus tard justement sur la question de la fiscalité, mais juste pour poursuivre un tout petit peu avant de redonner la parole à Anne Monnier et à François Debiès sur cette question de la visibilité, si je vous entends bien, Julia Cagé, vous laissez entendre qu'il y avait aussi une volonté délibérée de s'afficher en tant que grand donateur et d'en retirer quoi quelques dividendes.
Bah oui, d'en retirer de la publicité gratuite. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont fait un don l'ont pas affiché, l'ont pas déclaré, ont pas eu accès aux médias. Ces dons-là, ils auraient pu être faits de manière beaucoup plus discrète. Encore une fois, il y a eu des dépêches auprès d'agences, il y a eu des déclarations auprès des médias, et en plus, il y a eu en quelques heures une espèce de course aux dons. Du coup, on peut interroger les motivations des donateurs. Là où la plupart des Français ont juste contribué de manière discrète, comme ils le font tous les jours, tous les ans, quand ils font un don pour la lutte contre le cancer, quand ils font un don au Resto du Cœur, ils ne se mettent pas un t-shirt « J'ai donné 100 euros cette année au Resto du Cœur ».
En préparant l'émission, François Debiès, vous avez insisté notamment sur le fait que le mécénat doit être quelque chose de désintéressé, qui n'exige jamais de contrepartie. Est-ce que le désintéressement, ça passe pas d'abord par la discrétion? Est-ce que là, on n'a pas manqué un petit peu à la discrétion avec ces sommes annoncées, avec cette sorte de compétition qu'on a pu voir entre les grandes fortunes?
Par rapport à ce que vient de dire Julia, je suis d'accord sur le principe, sur la base de ce que vous avez dit. En revanche, je ne suis pas certain qu'il y ait eu une motivation de recherche d'image et dans les effets d'annonce, quelle est la part du donateur, quelle a été la part du relais médiatique, je ne sais pas exactement. En tout cas, ce qui me paraît très important, effectivement, et vous l'avez dit vous-même, c'est que face à une problématique de société, qu'elle soit là culturelle ou sur un autre sujet plus social, chacun met de sa pierre à l'édifice. Quand on a des gros moyens, eh ben on fait un gros don. Quand on a des petits moyens, on fait un petit don. Et en l'occurrence, je trouve que rejeter l'idée que de très grandes fortunes ou que de très grands mécènes aient pu faire de très grands dons, c'est un peu dommage. D'abord parce que en termes sonnants et trébuchants, malgré tout, c'est efficace. Et puis parce que ça a quand même valeur d'exemple. Je pense que il y a aujourd'hui une forme de responsabilité sociale de la part aussi bien des entreprises, des grandes entreprises en particulier, que des grands donateurs sur le rôle qu'ils peuvent et qu'ils doivent jouer dans la société. Face aux problèmes de plus en plus complexes et coûteux qui sont les nôtres.
Oui, Anne Monnier. Alors, j'ai la cagé ensuite, Anne Monnier.
De la part, par exemple, d'un Bernard Arnault qui n'a jamais caché sa pratique de l'évasion fiscale, on pourrait dire que la responsabilité sociale pourrait commencer par le fait de payer des impôts plutôt que de faire des dons qui vont donner lieu à réduction fiscale.
Enfin, pas là.
Parenthèse fermée.
Pas là. Mais ils ont annoncé tous les deux qu'ils ne défiscaliseraient pas.
Après polémique.
Oui, mais enfin, ils l'ont fait.
Enfin, non, ils l'ont annoncé.
Pas après polémique de la part de Pinault.
Non, non.
N'oublions pas de Monnier.
En fait, je pense qu'il faut juste contextualiser le contexte d'émergence de ces critiques, c'est-à-dire que ces critiques sont à la fois légitimes et illégitimes. Je pense qu'elles sont importantes parce qu'il faut être capable de pouvoir critiquer la philanthropie. C'est pas forcément le cas aux États-Unis où elle est beaucoup plus développée. Les gens en sont beaucoup plus dépendants et c'est beaucoup plus difficile de la critiquer. Et d'ailleurs, Anand Giridharadas, qui est celui qui a écrit Winners Take All et qui critique beaucoup la philanthropie, a dit c'est très healthy, c'est très sain de pouvoir critiquer la philanthropie. Mais d'un autre
winners
côté,
winners take all, ça veut dire les vainqueurs remportent tout.
Voilà,
remportent
exactement,
la mise.
Et qui est très critique vis-à-vis de la philanthropie. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut mettre ça. Et je pense que Julia là-dessus a raison. Il faut le contextualiser dans un contexte de tension politique à l'heure où à la fois il y a énormément de personnes à la rue, de difficultés, de précarité. Il y a 140 000 sans-abri et personnes qui souffrent dans un contexte aussi de tension politique vis-à-vis des gilets jaunes et d'un fossé qui grandit entre les élites et la population. Et donc finalement, cet élan de générosité, c'était pas une critique de la philanthropie, mais plutôt une critique des inégalités et d'une crise de la démocratie qui est actuellement à l'œuvre.
On a pu lire par exemple dans le journal Le Monde que ces promesses de dons qui ont été faites pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris représentaient autant en quelques jours que les dons obtenus en un an par les principales œuvres caritatives, à savoir Médecins sans frontières, le Téléthon, la Croix-Rouge, le Secours catholique, les Apprentis d'Auteuil et les Restos du Cœur. Est-ce que c'est une comparaison qui vous semble inopportune, François de Bies, ou est-ce que vous comprenez que l'on puisse être au moins interloqué par autant de dons pour la reconstruction d'un élément du patrimoine et si peu, ou en tout cas pas de manière aussi médiatisée pour des questions qui relèvent du social?
Alors, écoutez, je pense qu'effectivement, il y a une limite à une approche de cette nature. Lorsqu'il y a un grand événement humanitaire dans le monde, un tremblement de terre, un tsunami, etc., vous avez un élan de générosité formidable qui, si vous le chiffrez à l'instant T, va être disproportionné par rapport à ce qui se fait traditionnellement. Donc là, on est un peu dans la même approche. On a un phénomène qui est complètement exceptionnel sur un monument qui, je pense, est unique au monde. Je dis bien pas uniquement en France, parce qu'il n'y en a pas un seul, même Versailles, qui soit au même niveau, mais même dans le monde. Et l'émotion qui a été soulevée par ce qui s'est passé à Notre-Dame le montre bien. Donc un événement complètement exceptionnel, mais sur lequel il y a eu un effort exceptionnel de fait, mais qui n'empêche pas tous ces grands donateurs de faire, et souvent dans une modestie assez exemplaire, des choses très importantes dans le domaine social.
Oui, mais justement, pourquoi le ferait-il de manière modeste dans le domaine social et pourquoi le ferait-il de manière beaucoup plus médiatique dans le domaine culturel? Est-ce qu'il y a quand même aussi un élément, mais pourquoi pas, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément critiquable, mais de valorisation, c'est-à-dire c'est quelque chose de monde assez prestigieux que de pouvoir associer son nom à la reconstruction d'un monument comme Notre-Dame de Paris?
Je ne pense pas chacun peut avoir son approche, hein, je ne pense pas qu'il y ait eu une volonté délibérée. Ça s'est fait d'abord vraiment plus qu'à chaud, hein, puisque ça a été annoncé dans les heures qui ont suivi l'incendie. L'incendie n'était même pas encore terminé. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un calcul à ce niveau-là. Et d'autre part, je dirais une chose très importante, en tout cas en ce qui concerne le mécénat des entreprises. Le mécénat est né dans les années 80. Dans les 20 ou 30 premières années, la recherche d'un bénéfice d'image a été quelque chose de significatif. Je pense que les entreprises ont pris conscience, notamment à travers des critiques qui ont été faites par des ONG, par des universitaires, etc., et qui sont positives, ça n'était pas la bonne approche. Et que ce qu'il fallait rechercher dans le mécénat, c'était autre chose. Les entreprises qui investissent en mécénat ont un objectif, mais aujourd'hui cet objectif est beaucoup plus dans la création de liens entre l'entreprise et son écosystème, entre l'entreprise et la société. Et je pense que ça, c'est formidablement important pour l'avenir.
Julia Cagé tout à l'heure a évoqué la question du naming, Anne Monnier. Ça, c'est quelque chose qui est très développé, en particulier aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se traduit et est-ce que c'est quelque chose qui arrive en France?
Alors c'est une pratique. D'abord, je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit Monsieur de Bies, sur le fait que la question de la visibilité, de l'image, on dit souvent, et notamment aux États-Unis, que la philanthropie n'est pas en fait un acte gratuit, et ça remonte à la théorisation de Marcel Mauss qui parle de don contre don. Donc toute philanthropie nécessite des contreparties, et souvent des contreparties en termes de capital symbolique, pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu. Le naming est une pratique qui permet en fait d'offrir une reconnaissance aux mécènes. Aux États-Unis, elle est extrêmement développée, et il y a la possibilité de nommer des bâtiments, des sièges, des bancs, des statues. Donc c'est vraiment très développé. Et souvent, c'est sur une période de temps définie. Donc pour vous donner un exemple, au Lincoln Center à New York, le New York State Theater a reçu un don en 2008 de David Koch, de la Koch Family, de 100 millions de dollars, pour donner le nom. Donc maintenant, ça s'appelle le David Koch Theater, pour 50 ans. Et dans 50 ans, le bâtiment sera renommé. En France, c'est une pratique qui commence à se développer, notamment pour les donations de collections. Et actuellement, on commence aussi à nommer des amphithéâtres, des salles. Et c'est une réflexion, je pense, qu'il va falloir mettre en place au sein des institutions culturelles pour réfléchir, on va dire, à mettre une ligne rouge sur ces pratiques importées des États-Unis, parce qu'elles peuvent poser un certain nombre de difficultés.
En même temps, Julia Cagé, ça peut sembler assez légitime quand on débloque de telles sommes que de vouloir avoir une forme de contrepartie en termes de visibilité et que l'on puisse savoir que j'ai donné 100 millions d'euros, j'ai donné 200 millions d'euros.
Alors déjà, il y a deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui contrepartie ou pas ? Oui, il y a une contrepartie qui est fiscale, qui est déjà extrêmement importante. Donc pour l'instant, on a déjà une contrepartie qui existe, qui fait que quand vous êtes un grand donateur et que vous faites le choix, parce que c'est votre choix hein, d'exprimer votre amour pour telle ou telle œuvre d'art, votre désir de soutenir telle fondation plutôt que telle autre fondation, vous ne le faites pas gratuitement, vous avez un bénéfice fiscal que vous retirez de ce don-là.
Ensuite, il y a quand même partie de l'argent que vous donnez. Par exemple, si vous êtes un particulier, c'est 66% de réduction fiscale, il y a quand même 34% d'argent que vous donnez vraiment.
On va revenir là-dessus, j'espère. Si vous êtes un particulier et que vous faites partie des 50% des Français aux revenus les plus élevés, vous bénéficiez de 66% de réduction d'impôts. Si vous êtes un particulier et que vous faites partie de la moitié des Français les moins favorisés, vous ne faites pas partie de ça. Mais je voudrais juste, première chose, c'est-à-dire que indépendamment du fait de rendre visible son don, il y a déjà une contrepartie aujourd'hui qui est une contrepartie financière. Ça, il faut quand même se poser la question, c'est-à-dire que vous avez deux fondations, deux œuvres d'art A et B. Si je suis riche et que je choisis demain de soutenir l'œuvre d'art A plutôt que l'œuvre d'art B, j'exprime mon choix, mes préférences, et la collectivité prend en charge deux tiers de ses préférences. Donc ça, c'est quand même la première chose. La deuxième chose, vous dites en termes de visibilité, mais en fait, pourquoi ? C'est-à-dire que si moi, je donne à une fondation demain l'équivalent de 0,1 ou 0,2% ou même allez, 1% de mon revenu annuel, j'aurais pas le droit à une visibilité.
Vous donnerez votre nom à une poignée de porte, par exemple.
Oui, ou à un trou de serrure, je pense. Et pourtant, j'aurais fait un effort financier conséquent. Maintenant, parce que je suis 100 000 fois plus riche que le Français moyen et que je fais un don qui n'est pas un effort financier plus important, là, j'aurais le droit de mettre mon nom sur tous les bâtiments publics, sur des chaires d'université, sur des fondations d'art. Il faut quand même interroger ça, parce que ça interroge. En fait, ça met un lien, ça lie très concrètement les inégalités économiques avec des nouvelles inégalités politiques et aussi des inégalités en termes de visibilité. Et moi, je pense qu'il faut interroger ce modèle. Il faut savoir si c'est le modèle de société qu'on veut pour la France demain.
François Debiez, donc je rappelle, président de l'Association pour le développement du mécénat industriel et commercial, ADMICAL. Je crois qu'il y a une charte du mécénat. Qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? Alors, et qu'en pense le président d'ADMICAL?
La charte du mécénat, c'est un codicille qui va régler la façon dont un partenariat de mécénat peut être mis en œuvre. Par rapport à ce qui vient d'être dit par Julia, il y a un point sur lequel je voudrais quand même attirer l'attention, c'est le fait que le mécénat ne représente pas une dépense pour l'État.
Les comptes de l'État, ça rentre en dépenses fiscales. Les réductions d'impôts, c'est dans les bleus de
Bercy. C'est un manque à gagner de recettes.
Ça s'appelle une dépense fiscale, c'est dans les comptes de Bercy.
Mais en tout état de cause, les 40% qui sont mis par le mécène, c'est bien une dépense qu'il fait sur sa trésorerie. Et lui ne fait pas d'économie. Il ne fait pas d'économie, il va dépenser effectivement une somme sur laquelle une partie sera prélevée sur ce qu'il ne paiera pas en impôts, mais il va dépenser effectivement la somme globale. Alors, pour moi, il y a un point qui est extrêmement important, il n'y peut pas y avoir de mécénat sans une éthique. Je pense que cet aspect-là, il est absolument indispensable, ça fait très longtemps que ADMICAL s'est penché sur le sujet. C'est un sujet sur lequel il y a encore un certain nombre de progrès à accomplir, de réflexions à avoir. Je suis frappé quand même par le fait que dans votre propos critiques, entendables, hein, audibles parfaitement, vous vous focalisez beaucoup sur le mécénat culturel. Cette question des contreparties, elle ne concerne pratiquement que le mécénat culturel. Quand on parle de social, au sens le plus large du terme, quand on parle d'éducation, les contreparties, elles n'existent pas au sens véritable du terme. Et donc, il peut y avoir une réflexion à mener à ce niveau-là, de même que lorsqu'on parle de contenu du mécénat, de ce qui est défiscalisable, et alors là, plus sur le culturel, on peut s'interroger sur certaines choses, sur le bâti, par exemple, etc. Donc, pour moi, il y a un problème d'éthique. Il est fondamental que le mécénat s'inscrive dans cette éthique, qui est à la fois une éthique du mécène, dont la limite est l'ingérence, la limite principale est la non-ingérence, plutôt.
Oui, parce que j'allais vous poser la question, François Debiès, c'est-à-dire, qu'est-ce qui, pour vous, constituerait un manquement à l'éthique du mécénat? C'est-à-dire, le fait, par exemple, alors, je reprends les exemples, parce que c'est les exemples dont on parle évidemment depuis quelques semaines, la famille Pinault, la famille Arnault, pardon, qui mettent beaucoup d'argent, ou la famille Bettencourt pour la reconstruction de Notre-Dame. Un manquement à l'éthique, ça serait de dire, bah voilà, nous on a mis tant d'argent, donc alors, on veut que la reconstruction se fasse de telle manière.
Il y a deux types de manquements à l'éthique. Le premier manquement à l'éthique, effectivement, ça serait d'aller trop loin dans la recherche de contrepartie. Vous l'avez dit vous-même en démarrant l'émission, le mécénat, dans sa définition dans la loi, doit être majoritairement désintéressé. Hein, donc cette notion de désintéressement, elle doit être respectée en permanence.
Sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire.
Sans contrepartie directe, voilà. Donc ça c'est un point qui est absolument fondamental.
La loi du 6 janvier 89.
Et effectivement, pour reprendre l'exemple que vous prenez, si le mécène qui met beaucoup d'argent sur la reconstruction d'un monument allait trop loin, soit dans l'ingérence, dans le projet architectural, en disant « moi j'ai mis tant, donc je veux que ça soit la fameuse flèche en verre ou je sais pas quoi », bon ça, inacceptable. Bon, de la même façon, le mécène qui dirait ben, au-dessus de du fronton de Notre-Dame, maintenant il doit y avoir inscrit le nom de ma boîte, et ben, inacceptable également. Hein. Et donc Admical est en train de créer une instance avec tous nos petits camarades de l'écosystème pour qu'on travaille sur ces questions d'éthique et qu'on soit capable, sur des dossiers précis et sur une saisine la plus large possible, de dire bon ben ça ok, ça rentre dans l'éthique du mécénat, ça ne rentre pas dans l'éthique du mécénat. Et on travaille, la première étape c'est de travailler le référentiel, parce que si on veut pouvoir prendre des positions, bah, il faut savoir à quoi on se réfère. Mais ce sujet est indispensable. De la même façon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut que le mécéné, que le bénéficiaire respecte aussi une éthique. Et cette éthique, bah, c'est d'abord vérifier que les fonds qu'il va aller chercher sont acceptables. Hein. Bon, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, hein. Donc il faut bien faire attention à ça. Et puis le devoir de transparence, c'est-à-dire une relation de mécénat, c'est une relation de confiance, c'est un partenariat, et il faut que le jeu soit véritablement joué.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Voilà, faut-il se méfier des grands mécènes? C'est la question que nous posons ce soir au président de l'Association pour le développement du mécénat industriel et commercial, François Debiès, à l'économiste, professeur à Sciences Po Paris, Julia Cagé, et à Anne Monnier, qui est docteur en sciences sociales et spécialiste de la philanthropie transnationale. Il y a eu quelques mois, c'était au mois de novembre, un rapport en France de la Cour des comptes sur le mécénat, avec ce constat, c'est un dispositif, alors c'était pour les entreprises, hein, qui coûte, c'est comme ça que nous dit la Cour des comptes, 900 millions d'euros par an à l'État, avec le constat que la dépense fiscale, donc le moins perçu, ça c'était pour 2016, a profité à 24 entreprises, alors qu'il y en a évidemment beaucoup plus qui font du mécénat, et qu'il n'y a pas d'évaluation de l'efficience. Vous qui vous intéressez beaucoup au système américain, Anne Monnier, est-ce que vous diriez que le système et la législation française, elle est particulièrement généreuse et incitatrice par rapport à ce qui peut exister aux États-Unis?
Oui. La défiscalisation, enfin les niches fiscales en France sont très généreuses vis-à-vis du donateur par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Et donc c'est vrai que souvent certains s'étonnent qu'il y ait aussi peu de grands donateurs, de grands donateurs, alors qu'aux États-Unis c'est quelque chose d'extrêmement développé.
C'est quoi, c'est une question culturelle qui explique la différence entre les deux pays?
Alors je pense que c'est multicausal. Il y a énormément de raisons qui peuvent expliquer. Je pense que c'est aussi historique. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a on va dire la structuration de la société qui est très différente, puisque il y a l'État, il y a l'individu, et puis au milieu il y a la communauté, et le rôle de la communauté est extrêmement important. Et la philanthropie, c'est une manière de give back to the community, donc rendre à la communauté, à la société. Tandis qu'en France, il y a un lien direct entre l'individu et l'État, et la volonté justement de considérer que c'est à l'État de prendre en charge les questions qui ont trait à l'intérêt général.
Alors un de ce...
simple, c'est l'impôt. Oui. Hein.
François Debiès.
C'est l'impôt. En fait, la grande différence, c'est que l'impôt aujourd'hui, depuis des années en France, depuis des décennies en France, est censé apporter la ressource nécessaire à l'État pour assurer l'intérêt général ou le bien commun. Donc la différence essentielle, elle tourne autour de ça. Hein. Et effectivement, si vous interrogiez, c'est moins vrai aujourd'hui, hein, mais si vous interrogiez il y a quelques années les gens sur pourquoi vous donnez pas, ils disent bah si, je donne, je paye mes impôts.
Julia Cagé, sur cette question.
C'est vrai, c'est là où je dis qu'il faut interroger le modèle de société dans lequel on veut vivre. Si je voulais complètement caricaturer, on pourrait avoir un modèle américain avec des inégalités très fortes, des taux marginaux sur les revenus les plus élevés et les patrimoines les plus élevés extrêmement faibles, où en fait les riches ne paient pas d'impôts et se justifient de ne pas payer d'impôts en disant « nous donnons notre argent ». Donc en fait, il n'y a pas besoin de le donner à cet État inefficace puisque nous faisons preuve nous-mêmes de philanthropie. Et il y a un modèle français qui me semble préférable, où on fait encore confiance à l'État pour décider de combien d'argent on veut allouer au bien public, c'est-à-dire à l'éducation, c'est-à-dire à la santé, choisir le bien public avec un État et des gouvernements qui sont légitimement élus, où les plus riches contribuent et font des efforts par l'impôt, et où en fait l'argent de cet impôt est réparti en fonction de l'expression de l'intérêt général. Moi, je crois encore fondamentalement à ce rôle de l'État et de gouvernement démocratiquement élus, et je trouve qu'aux États-Unis, de ce point de vue-là, on tend davantage vers la plutocratie que vers la démocratie.
Alors, je suis complètement en phase avec ce que vous venez de dire, hein, et je pense que la loi Aillagon, le choix qui avait été fait de la loi Aillagon, les 60% défiscalisés et les 40% non défiscalisés, c'était équilibré.
Ça, c'était pour les entreprises.
Hein. Pour les entreprises. En matière de financement d'intérêt général, je pense que l'État et les collectivités, la puissance publique, doit rester le garant de l'intérêt général. C'est sa nature, c'est sa fonction. En revanche, aujourd'hui, il a un besoin crucial de ressources complémentaires. La ressource publique n'est plus suffisante pour faire face à des problèmes et à des besoins qui sont de plus en plus importants et de plus en plus coûteux. Et donc, il faut impérativement que le privé vienne mettre sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est important, non seulement en termes financiers, mais je pense en termes sociaux. Pour moi, le Chinese Wall qui existait de façon historique dans notre pays entre le public et le privé n'est plus de mise aujourd'hui, n'est plus supportable aujourd'hui pour des raisons simplement réalistes, hein, pour des raisons sonnantes et trébuchantes. Mais par-delà ça, je pense que si on veut construire une société différente, si on veut effectivement en finir avec ces fractures qui caractérisent notre société aujourd'hui, il faut que chacun prenne conscience du rôle qu'il a joué dans la société, chacun entreprise ou particulier. Et pour ça, il me semble que cette loi 60-40, elle était plutôt bien équilibrée. D'ailleurs, moi, personnellement, j'étais contre le passage à 75% pour les entreprises. Je pense que ça aurait été une erreur. C'est bien, en revanche, pour les particuliers, pour les petits. Mais pour moi, cet aspect-là, il est fondamental. Et tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de mécénat sans éthique. Pour moi, il y a un point qui me paraît majeur aujourd'hui, effectivement, c'est d'arriver à une approche qui soit plus collective, qui soit plus concertée sur l'intérêt général. Je pense que nous manquons d'une vision de la société. C'est exactement ce que vous disiez. Je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de travailler à ça. Je pense que il n'y a pas de réflexion à ce stade sur ce que doit être l'intérêt général de la société française aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément de parties prenantes à ce sujet, qui sont bien sûr les collectivités territoriales et l'État, mais qui sont aussi un certain nombre de privés, d'associations, d'entreprises, d'entrepreneurs sociaux. Beaucoup de gens s'intéressent à ça, et aujourd'hui on n'a pas d'instance de concertation. C'est pour ça que j'avais fait cette tribune dans laquelle j'appelais un Grenelle de l'intérêt général. L'expression est bien sûr pas la bonne, mais je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin d'un lieu où on puisse parler de comment on veut vivre ensemble et de qui fait quoi dans ce vivre ensemble.
Alors sur cette question justement de l'intérêt général, repartons un instant aux États-Unis, puisque aujourd'hui, quand on parle de philanthropie, de grands mécènes, il y a un nom qui arrive en général assez vite, c'est celui de Bill Gates, le patron de Microsoft, avec sa fondation, la fondation Bill et Melinda Gates. Il était venu en parler, c'était en juin 2015, sur France Culture, dans les matins présenté à l'époque par Marc Winchet, Bill Gates traduit par Michel Zotowski.
Eh bien, 2% de l'économie aux États-Unis, c'est de la philanthropie, menée par la philanthropie. Ce n'est pas des gens riches comme moi, c'est vraiment des gens vraiment mainstream. Parfois, ce sont des dons par des organisations religieuses, d'autres qui sont donnés à des écoles. Et c'est le plus intense, c'est le plus important, cette philanthropie aux États-Unis. J'espère que ça va se répandre aussi en Inde, en Chine. J'en parle de la philanthropie, et c'est pas quelque chose qui vient à la place de ce que fait le gouvernement, mais ça peut donner des fonds pour la recherche. Par exemple, la révolution verte. Nous essayons de lever beaucoup d'activités en Asie. Par exemple, dans les années 60 et 70, ces activités ont été fondées par Ford et Rockefeller. C'était extraordinaire de cette lutte contre la malnutrition.
Voilà, Bill Gates sur France Culture en juin 2015. Anne Monnier dit, ça ne se substitue pas à ce que fait en gros le gouvernement. Est-ce que quand il dit ça, Bill Gates, il est totalement sincère? Ou bien, étant donné la puissance de feu de sa fondation, il ne décide pas, quand même, peut-être par procuration, mais de certaines politiques publiques, en fonction des fonds et des causes sur lesquelles il décide de porter son attention?
Absolument, absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fondation Gates a fait l'objet de nombreuses recherches très critiques, notamment les recherches de Lindsay McGoy, qui a montré qu'en fait, la Fondation Gates a mis de l'argent, notamment en Afrique, sur les questions de santé, par exemple, pour éradiquer la polio. Ils sont parvenus à éradiquer la polio, mais que l'OMS considérait qu'il y avait des choses qui étaient plus prioritaires, comme le sida, la tuberculose, la malaria, qui tuaient beaucoup plus de monde. Et donc, il y avait aussi cette idée de... Finalement, il a mis de l'argent sur quelque chose qui n'était pas aussi efficace que s'ils avaient écouté l'OMS et les réflexions de nombreux spécialistes sur ce qui était le plus nécessaire à un moment T. Donc je pense que la question qui se pose là, c'est la question du rôle des mécènes et des grands philanthropes. Notamment, moi, je pense qu'en France, il faut vraiment essayer de se démarquer de l'exemple américain, développer une philanthropie à la française. Donc, ne pas critiquer la philanthropie comme ça, de manière simplement par désir d'opposition, mais plutôt avoir un regard critique et essayer de cadrer, en fait, cette philanthropie par l'État, mais aussi par une écoute des gens sur le terrain qui connaissent très bien les besoins, la manière dont cela doit être fait et pas simplement imposer le désir des donateurs.
Sauf que ça peut aller peut-être à l'encontre des intérêts de ces grands donateurs. Vous évoquiez tout à l'heure Anand Giridharadas, oui. Hein, c'est ça, voilà, qui était interviewé il n'y a pas très longtemps dans Mediapart, donc a fait ce livre sur la philanthropie Winners Take All, les gagnants remportent la mise, dans lequel il disait aux États-Unis, la poursuite du bien commun est de plus en plus privatisée, bon ça on l'a dit, les philanthropes sont devenus les solutionneurs héroïques des problèmes qu'ils causent. Et il évoque notamment Bill Gates, il y a d'ailleurs un livre aussi en français, hein, faut pas que j'oublie de le citer, L'art de la fausse générosité, qui est signé Lionel Astruc chez Actes Sud, qui dit aussi un petit peu la même chose, c'est-à-dire elles sont à la fois des entreprises qui ont un impact et qui, via leur fondation, vont essayer de réparer l'impact tout en misant sur des causes qui ne vont pas aller contre les intérêts de ce qui est le cœur de métier de ces entreprises.
Oui, absolument. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment, je pense, une réflexion en amont sur un projet de société, je pense qu'on est d'accord tous les trois là-dessus, sur ce que doit être l'intérêt général et aussi peut-être la question de mission des entreprises, de la manière dont peut-être la façon dont elles pourraient contribuer à un projet social. Donc moi, je pense qu'il est important actuellement, c'est de parvenir à un dialogue entre les différents acteurs. Donc, et ne pas forcément se critiquer, parce qu'il y a beaucoup en France cette opposition élite, population, droite, gauche, etc. Là, je pense qu'il faut une médiation et réfléchir à un dialogue tous ensemble sur la manière dont on peut contribuer au mieux à l'intérêt général pour tous.
C'est mon Grenelle.
Est-ce qu'on essaie de faire aussi ce soir? Julia Cagé, ensuite François de Biesse.
Oui, moi, je pense que le problème, en fait, c'est le manque de responsabilité de la part des mécènes, et c'est quelque chose qui a été extrêmement bien formulé par Rob Reich, qui est un chercheur à Stanford, spécialiste de la philanthropie, et qui vient de publier un livre qui s'appelle Just Giving. Est-ce qu'il s'agit juste de donner, justement, ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui sont impliquées dans les dons? Il se concentre uniquement sur le cas américain, mais je pense qu'on peut élargir une partie de ses conclusions. Et ce qu'il dit, c'est que le problème des philanthropes aujourd'hui, c'est que contrairement aux entreprises et contrairement aux politiques, ils ne sont responsables devant personne. Si vous êtes un politique, vous êtes élu, vous êtes responsable devant les citoyens, et si finalement vous gaspillez l'argent public, vous allez perdre à la prochaine élection. Si vous êtes une entreprise et que vous mettez sur le marché des biens, des services qui ne satisfont absolument personne, vous allez être puni par les consommateurs qui vont arrêter d'acheter vos biens et vos services. Si vous êtes un philanthrope, non seulement vous n'êtes responsable devant personne, c'est-à-dire vous dépensez votre argent comme vous le voulez, et en plus vous êtes subventionné en partie par l'État, vous faites vraiment ce que vous voulez, et en plus que des gens vont vous voir, finalement, c'est pas pour vous dire, alors, on va réfléchir ensemble à l'utilisation optimale de votre argent. En général, c'est pour vous demander de l'argent. C'est-à-dire, si vous prenez des grosses fondations comme la Fondation Gates, ils font aussi énormément de dons aux petites fondations. Donc finalement, à chaque fois qu'ils ont des gens qui viennent les voir, c'est pour leur demander quelque chose. Donc en fait, on a créé une espèce de d'organe assez unique qui est caractérisé par un déficit de responsabilité. C'est-à-dire, c'est ni le politique qui est responsable face aux citoyens, ni les entreprises qui sont responsables à travers le mécanisme de marché. C'est juste des philanthropes qui, et là pour le coup, c'est vraiment essentiel aux États-Unis. Dans certains secteurs d'activité, ils ont pris une place plus importante que l'État. Donc
il faudrait quoi que la décision elle soit plus collective.
Mais on pourrait avoir des conseils d'administration, par exemple, avec des représentants de l'État. D'ailleurs, c'est le cas en France pour les fondations, c'est plus le cas pour les fonds de dotation. Aux États-Unis, vous n'avez aucun représentant du pouvoir politique dans les conseils d'administration des entreprises, et ça, c'est un problème.
Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est bien pour ça que je pense que pour que ça fonctionne de façon efficace et non critiquable, il faut à la fois de l'éthique et de la concertation. Et aujourd'hui, l'éthique, elle n'est pas optimum, elle existe, mais on peut encore l'améliorer. En revanche, la concertation n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement organiser. Si vous regardez la question de la philanthropie et du mécénat, il n'y a aucune instance aujourd'hui qui est chargée de réfléchir à ces sujets-là. Il existe un haut comité de la vie associative en France qui s'intéresse aux associations. Il n'y a rien d'équivalent sur le mécénat. Il n'y a rien de transversal. Et donc, les différents ministères, en plus, ont une approche qui est forcément une approche en silo du sujet. Et donc, il y a absolument besoin de ça. Sinon, ça ne peut pas fonctionner correctement. Alors, je pense que l'exemple français est quand même différent. Moi, il y a une espérance d'évolution qu'on voit se dessiner de façon très claire, c'est le développement du mécénat territorial. Aujourd'hui, de plus en plus d'initiatives de mécénat se passent dans les régions, dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, avec une participation de plus en plus fréquente des collectivités territoriales sur des projets qui sont des projets communs. La bonne approche de l'intérêt général, c'est ça. C'est de mettre côte à côte sur des projets communs, de co-construction, le public et le privé. Il y a besoin des ressources de tout le monde, il y a besoin des compétences de tout le monde, et je vous rappelle que le mécénat, c'est pas que du fric, c'est aussi des compétences humaines, et de plus en plus, ça sera le cas.
On parle beaucoup d'ailleurs du mécénat de compétences dans les entreprises.
C'est une vraie cause d'optimisme pour l'avenir du mécénat en France.
Anne Monnier.
Oui, pour compléter ce que disait Monsieur Debias, je pense que c'est un dialogue à la fois État, secteur philanthropique, mais aussi les acteurs de terrain, les associations qui connaissent et très bien le terrain, les besoins et surtout les modalités de mise en œuvre de la philanthropie. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les donateurs, en fait, ont intérêt à ce qu'il y ait ce dialogue, parce que, en fait, ça va faire regagner de la légitimité à la philanthropie. Si on dit, au lieu de dire c'est un peu la danseuse, je donne à qui je veux et c'est mon bon vouloir, dire je vais donner en fonction des besoins, en étant à l'écoute des besoins et des gens qui en ont besoin et de ce que va définir l'État comme priorité de l'intérêt général, la philanthropie va gagner en légitimité. Je pense que des deux côtés, va y avoir un gain.
Oui, mais si c'est l'État qui définit ce qu'est l'intérêt général, est-ce que la logique, ça n'est pas d'aller jusqu'au bout et de dire c'est à l'État de financer après tout? C'est-à-dire pourquoi l'État définirait l'intérêt général mais laisserait au secteur privé le soin de financer en partie cet intérêt général?
C'est dans la concertation, c'est ce
dans
que disait Anne.
C'est pas l'État qui va définir, mais c'est que l'État a la légitimité la légitimité d'être élu, c'est-à-dire qu'il y a l'élection, la démocratie qui participe à cette question-là, et c'est vrai que les philanthropes décidant tout seul de l'affectation, les philanthropes, ils n'ont pas la légitimité de l'élection. Donc il y a vraiment cette idée de légitimité démocratique de la philanthropie.
Julia Cagé me fait un signe et ça va être court.
Oui, ça va être très court, mais en fait on a parlé énormément des grands mécènes et des grands donateurs. Moi je voudrais simplement proposer une réforme très simple du système actuel de la philanthropie en France, parce qu'il y a aussi beaucoup de petits mécènes, c'est-à-dire tout à chacun, les citoyens qui font des dons. Aujourd'hui ces dons ne donnent droit qu'à des réductions fiscales, c'est-à-dire que pour pouvoir en bénéficier, il faut payer l'impôt sur le revenu. Il faudrait que tout le monde puisse bénéficier de ces réductions d'impôts. C'est ce qu'on appelle
Donc,
crédit d'impôt. Ça serait une réforme extrêmement simple à mettre en œuvre. Et ça, ça inciterait davantage aussi de citoyens à donner, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et je pense que ça permettrait aussi d'avoir une vision plus démocratique, parce que ça permettrait de démocratiser davantage la philanthropie qu'elle ne l'est actuellement.
Le crédit d'impôt, ça vous intéresse?
Complètement en phase. J'ajouterais simplement, puisque vous parliez de particuliers sur les entreprises, je vous rappellerai qu'il n'y a que 9% des entreprises françaises qui font du mécénat, donc 91% n'en font pas, essentiellement les petites et les très petites. On a fait passer l'année dernière un amendement permettant une franchise de 10 000 euros par entreprise par-delà le plafond de 0,5% de chiffre d'affaires. C'est indispensable que chaque entreprise puisse progressivement mettre sa pierre à l'édifice et jouer sa responsabilité dans la société.
Merci François Debiès, Julia Cagé et Anne Monnier pour cette discussion que vous pourrez retrouver sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Marchand, Amélie Perrault, Antoine Dulcer, Virginie Ledio et Léa Capuano. Émission réalisée par Peyret Legrave avec la prise de son Louis Bardinet. Dans un instant, vous retrouverez la dispute avec Arnaud Laporte et de la musique ce soir.
En effet, de
la musique de jeunes.
De la musique pour vous, évidemment.
Bah oui, pour nous les jeunes.
Vous écoutez Roméo Elvis, je sais, en boucle dans votre bureau.
J'ai même vu en concert, c'est très bien.
Les Vampire Weekend?
Non, jamais.
Bon, écoutez, et puis on va parler de l'expo électro aussi à la Philharmonie de Paris. Demain, la question du grain à moudre, Hervé.
Qu'est-ce qu'un enseignant exemplaire? On va évoquer le projet de loi Blanquer.
Bon, ce sera demain à 18h20 tout de suite. Il est 19h, vous écoutez France Culture et titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.